Nous allons maintenant ouvrir la Bible et lire quelques versets dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Nous lirons du verset 1er au verset 12. Mes frères, dit l'apôtre, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Après lecture de ces textes, nous aurions envie de nous taire et de nous laisser sonder par le Seigneur. Je dirais que ces textes sont presque sans commentaire. Hier, tandis que je traitais le sujet des pensées pour Christ, je disais que c'est un cadeau royal que Dieu nous fit en nous accordant la faculté de penser. Eh bien, c'est un cadeau plus que royal que celui de pouvoir exprimer notre pensée par la parole. Oui, c'est un cadeau plus que royal. Parce que Dieu parle, il a voulu que l'homme parlât aussi. Dieu parle aujourd'hui. Il parle très fort. Et il voudrait que ce monde l'entende, que l'homme l'entende. Malheureusement, il se fait souvent que nous n'ayons pas d'oreilles pour Dieu. Nous soyons ouverts à toutes sortes de choses, sauf à la parole de Dieu. Dieu parle, et parce qu'il parle, nous parlons aussi. Et la toute première personne à laquelle l'homme s'est adressé, le premier homme s'est adressé, fut Dieu, son Créateur. J'espère que pour nous, tous les jours, il en est de même. Et que c'est à Dieu que nous adressons nos premiers mots le matin quand nous nous réveillons. Et l'homme est le seul être à pouvoir exprimer sa pensée par la parole. Ce qui marque, bien sûr, du même coup, sa supériorité sur l'animal. L'animal qui peut émettre des sons. Mais des sons, certainement, signifiant quelque chose, mais loin d'être ce que la parole est. Nous pouvons donc parler, exprimer, matérialiser, concrétiser nos paroles, nos pensées par la parole. Et cette parole, Dieu nous l'a donnée pour un moyen d'expression, je le disais, mais aussi pour un moyen de communication. dans le sens vertical, avec lui, et dans le sens horizontal, entre nous. Et ceci à tel point que lorsque deux personnes se brouillent, elles commencent par cesser toute communication verbale entre elles. N'est-il pas vrai ? Lorsque nous nous fâchons avec quelqu'un, eh bien nous commençons par cesser tout entretien, toute communication verbale avec ce même quelqu'un. Et c'est ce qui se passa un jour entre l'homme et Dieu en Éden, lorsque, par cet événement qu'il est convenu d'appeler la chute, l'homme s'est séparé de Dieu. Dieu s'est séparé de l'homme et toute communication a été interrompue. Aujourd'hui, peu d'hommes et de femmes s'adressent à Dieu. Peut-être pourrais-je vous poser cette question. Depuis quand n'avez-vous pas parlé à Dieu ? Que d'hommes et de femmes ne lui parlent pas, ne lui parlent plus. Ils sont comme fâchés avec lui. Ils ont cessé toute conversation avec Dieu. Quel dommage, peut-être dans leur enfance, ont-ils régulièrement parlé à Dieu ? Dans leur jeune cœur. Peut-être qu'ils ont été élevés chrétiennement, qu'ils soient catholiques ou protestants, mais depuis leur enfance, plus rien. Ils ont l'impression, ils nous donnent l'impression de bouder Dieu, littéralement, d'être fâchés avec lui. Et que d'hommes et de femmes me disent qu'ils sont fâchés avec Dieu ? Ils sont fâchés avec lui parce que ils ont vu que dans leur vie, le Seigneur n'était pas intervenu comme il l'aurait désiré, comme il l'aurait aimé. C'est peut-être votre cas. Vous avez donc cessé toute communication, toute conversation avec Dieu depuis hier ou depuis bien longtemps. Et quel dommage. Quel dommage, parce que il me semble que parler à Dieu est l'un des plus grands privilèges qui soit accordé à l'homme par son Dieu qu'il aime. La toute première personne, donc, à laquelle l'homme s'est adressé fut son Créateur, fut Dieu lui-même. Mais malheureusement, cet organe à l'origine fécond pour le bien, par la chute, est devenu fécond pour le mal. Cet organe est devenu un organe très dangereux. La langue est aujourd'hui un fléau considérable dans notre société, et un fléau souvent considérable jusque dans nos églises. Il paraît qu'un jour, on a demandé au célèbre fabuliste grec Ésope quel était son plat préféré entre tous les plats qu'on avait coutume de lui présenter tous les jours. Et celui-ci de répondre, mais sans hésitation aucune, la langue de bœuf. Je ne sais pas si vous aimez ici la langue de bœuf, je l'aime personnellement, c'est une question de goût, mais il faut dire qu'une bonne langue de bœuf aux petits oignons, c'est pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout. Et si tout après cette question, on lui en posa une autre, que craignez-vous le plus aujourd'hui autour de vous, monsieur Ésope ? Et monsieur Ésope de répondre, la langue de l'homme. Si j'aime la langue de bœuf, j'ai horreur de la langue de l'homme. Et c'est ainsi que cet homme a écrit un jour la langue et la meilleure et la pire des choses. Nous sommes-nous déjà demandé ce qu'il peut y avoir de bon, d'édifiant dans ce flot de paroles qui coule journellement de nos bouches ? À considérer seulement ce jour, par exemple, depuis ce matin, depuis nos premiers mots, avec notre épouse peut-être, avec notre Dieu, j'espère, surtout, Nous sommes-nous demandé ce qu'il peut y avoir de bon, d'édifiant? Ah, si à la fin de la journée, nous essayons de faire un bilan de tout ce qui a été dit, je suis persuadé que nous en serions très souvent humiliés, n'est-il pas vrai? La langue est une puissance capable de tout. La langue peut haranguer, elle peut captiver, elle peut subjuguer, elle peut persuader, elle peut mentir, elle peut entraîner, elle peut blesser, déchirer, diviser, elle peut tuer. Et la Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 18 et au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aucun homme ne peut la dompter. » Et il nous semble que c'est avec ce membre que Dieu a le plus de peine avec nous. En tout cas, je suis persuadé qu'avec moi-même, Alain Choiquier, c'est à ce niveau-là que Dieu a le plus de peine. La langue, aucun homme ne peut la dompter. Quelle puissance! Et dans notre siècle, quelle puissance de tromperie, quelle puissance de mensonge, quelle puissance de calomnie, quelle puissance de médisance. Et la Bible dit, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et au verset 11, « Vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie, les uns envers les autres. » Il est un proverbe que nous connaissons bien et qui dit « un coup d'épée plutôt vaut mieux qu'un coup de langue. » La Bible dit à peu près la même chose en Proverbe 12-18 « Par ces mots, tels qui parlent légèrement blessent comme un glaive. Et de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leur langue. » Savez-vous que des églises ont disparu à cause de ce fléau de la langue, à cause de la médisance, de la calomnie? Des églises ont cessé d'exister, et j'en ai à l'esprit quelques-unes au sein desquelles on ne cessait de médire, de calomnier, de critiquer, de juger. Il est en effet des bouches qui crachent le feu, qui crachent le venin de la médisance. Ce texte biblique nous le dit dans le psaume 57, au verset 5, « Je me suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu de gens qui vomissent la flamme et dont la langue est un glaive tranchant. » Quel dommage que très souvent, ce membre, cet organe à l'origine conçu pour le bien, conçu pour une réelle bénédiction, est devenu une source de troubles considérables. Il nous faut donc absolument veiller sur notre langue. Il nous faut absolument dominer ce membre. La Bible dit que personne ne peut le dompter. Heureusement qu'il est possible, mes amis, en Christ, d'avoir sa langue crucifiée. D'avoir sa langue crucifiée pour qu'elle ne serve qu'à la gloire de Dieu, à l'avancement du règne de Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée, en 1 Timothée 4, 12, « Sois un modèle en parole. » Le chrétien peut-il laisser aller sa langue au gré de ses sentiments et de ses humeurs? Certainement pas. Il est un texte dans la Bible qui dit « Si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. » Si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. Le chrétien devrait faire attention à son langage. Il devrait le châtier. Il devrait y veiller. Comment se fait-il que très souvent, tout chrétien que nous soyons, nous nous permettons un langage grivois et grillard? qui n'est certainement pas à la gloire de Dieu. Et la Bible dit en Proverbe 10, verset 19, que celui qui parle beaucoup, celui-là ne manque pas de péché. Il est dans la Bible énormément de textes qui nous invitent à la prudence dans ce domaine. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, par exemple, Proverbe 10, 13. Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde sur ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Celui qui retient ses paroles est un homme prudent. » Le chrétien donc, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit qui l'habite, doit absolument veiller sur ses paroles, son langage. Il lui faut le châtier, le corriger. La Bible nous enseigne que nous avons tous, autant que nous sommes, sous notre langue, deux glandes à venin. Il y a d'abord la glande de la médisance et puis celle de la flatterie. Tout d'abord, la langue de la médisance. Romains 3, 13 le dit, « Ils ont sous leur langue un venin d'aspic. » La médisance. Savez-vous que le médisant et le diable, en grec, ont même racine? En d'autres termes, celui qui médit fait le jeu du diable. Il joue au diable, parce que c'est le travail du diable que de médire constamment. Et qu'il est dommage que nous laissions justement aller nos langues à cela très souvent. Oh, très souvent aussi, alors que nous nous surprenons en train de médire, nous avons coutume de dire « Oh, je ne critique pas, je ne médis pas ». Je constate, en réalité, il s'agit souvent d'une médisance. Et la médisance ressemble à une vraie lapidation morale. Nous lapidons ce que nous médisons. Une vraie lapidation morale, mes amis. Que c'est dangereux, que c'est grave devant Dieu. Jacques nous dit, dans son épître, au chapitre 4 et au verset 11, « Ne parlez point mal les uns des autres. » Nous faisons donc le jeu du diable en médisant. Nous jugeons nos frères, nos sœurs faits à l'image de Dieu. Nous ne savons pas voir chez eux l'œuvre du Christ. Quand nous pensons que le Christ nous a accueillis tous autant que nous sommes, tels que nous sommes. Pourquoi ne pas nous accepter les uns les autres comme Christ nous a accueillis? Ah, si le Christ avait eu des réserves à notre égard, et il aurait eu de quoi en avoir des réserves, où en serions-nous aujourd'hui? Je vous passe un secret. Si nous sommes enclins à médire sur quelqu'un, quelqu'une, de façon presque irrésistible, parce que avec celui-là ou celle-là, nous n'avons pas les atomes crochus. Le contact est difficile. Nous avons de la peine à nous rejoindre sur certains points, certaines questions, certains problèmes. Prions pour eux. Prions pour celui-là, pour celle-là. C'est ainsi qu'on échappe à la médisance. Et si l'on vient vers nous pour nous parler d'un tel ou d'une telle, dans un esprit de médisance, eh bien, ayons la liberté de dire à celui qui vient nous parler de celui-ci ou de celle-là, voudrais-tu que nous prions ensemble avant d'en parler de celui-ci ou de celle-là, pour que nous puissions réellement en parler de façon constructive, édifiante et non pas négative. Ah, je me souviens, au départ de cette église qu'on appelle aujourd'hui l'église de la nation, nous avions eu énormément de peine. J'ai eu l'occasion ici de vous présenter un aspect assez spectaculaire du travail, de l'œuvre et des encouragements. Mais j'aimerais dire que au départ, nous avions eu énormément de peine. Pourquoi ? Parce que les quelques-uns que nous formions à l'origine de cette œuvre venaient d'horizons évangéliques différents. Il y avait parmi nous un soldat de l'armée du salut, habitant le quartier, qui tenait à ce qu'une œuvre puisse se fonder dans ce quartier de la nation. Mais il avait une certaine vision du travail et des choses. Avec lui, j'ai eu assez de peines, de difficultés, je suis sûr qu'il en a eu avec moi. Mais au départ, dans cette salle qui avait servi un temps à l'armée du salut et dans laquelle il y avait un drapeau de l'armée du salut, je lui avais demandé de doter ce drapeau puisque nous n'appartenions pas à l'armée du salut. Et ce frère, ce soldat de l'armée du salut, choqué, vexé de me dire, mais non, jamais, prêchons sous ce drapeau, nous sommes des soldats du Christ, même si nous ne sommes pas là pour l'armée du salut. J'ai eu de la peine à avaler cela, je puis vous dire. Non pas que je n'aime pas l'armée du salut, au contraire, mais je ne voulais simplement pas tromper les gens qui venaient à nos rencontres, leur faisant croire que nous étions de l'armée du salut, par ce drapeau dressé là devant tous. Quand le Seigneur m'a dit, mon cher, prêche sous ce drapeau, le temps qu'il faudra, j'ai dû donc me taire à l'égard de ce frère et prêcher sous ce drapeau. Nous étions 5 au départ de cette œuvre. Et savez-vous ce qui se passait très souvent lorsque 2 d'entre ces 5 se rencontraient? Je vous le donne en 1000. Que faisait-il? Il parlait du troisième. Il parlait du troisième. Et quand 3 d'entre ces 5 que nous formions se rencontraient, inévitablement, il parlait du quatrième. Quand 4 se rencontraient, il s'agissait du 5e. Et que se passait-il quand tous les 5 étaient ensemble? Là, je vous le donne en 1000 aussi. Plus personne ne parlait. Plus personne ne parlait. Et ainsi sommes-nous, mes amis. Savez-vous qu'il nous a fallu nous rencontrer dans l'humiliation et l'amour pour commencer réellement de voir l'action du Saint-Esprit dans ce quartier de la nation. Savez-vous que cette même semaine où nous nous étions raccordés, cette même semaine, nous avions vu la première conversion. C'est donc que nous étions, nous, un obstacle sérieux au travail du Saint-Esprit dans ce quartier. Oh, que de fois, précisément, nous sommes des obstacles à la conversion, à l'action du Saint-Esprit dans nos villes, dans nos villages, là où Dieu nous place à cause, précisément, de la médisance. La Bible nous demande de couvrir les fautes et de ne pas les étaler, les fautes des autres, de ne pas les éclabousser. Il nous faut aussi apprendre à voir chez nos frères et sœurs chrétiens ce qu'il y a de bon chez eux, parce que Christ y habite. Et en procédant de cette façon-là, nos langues cessent de médire pour louer le Seigneur. La seconde glande à venin est celle de la flatterie. La flatterie est aussi dangereuse que la médisance. Flatter n'est pas dire du bien, c'est l'exagérer au risque de faire chuter celui que nous flattons. La Bible dit que celui qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Figurez-vous qu'un jour, je m'étais surpris en train de médire sur quelqu'un. Ça m'arrive malheureusement. Et surpris par ce que je disais à quelqu'un sur une tierce personne, pour tenter de me rattraper, je m'étais alors mis à dire du bien de cette personne jusqu'à l'exagérer, jusqu'à la flatterie pratiquement. Ainsi sommes-nous. Soit que nous médisions, soit que nous flattions, nous faisons le mal. Et qui peut dire qu'il n'a jamais médi? Qui peut dire qu'il n'a jamais flatté? Médire et flatter, c'est pécher devant Dieu. C'est faire l'œuvre de l'ennemi. La Bible dit encore en Proverbe 26-28, « La bouche flatteuse prépare la ruine. » Dieu nous garde de flatter comme de médire. Et puis nous en arrivons alors presque naturellement à la politesse. Quelqu'un disait que la politesse, c'est l'art habile de dire de manière très élégante ce qu'on ne pense pas du tout. Ah, madame, ce beau chapeau que vous portez, où l'avez-vous donc acheté? Où l'avez-vous donc acheté? Or, ce chapeau, on ne l'a pas du tout avalé. Hein. Pas du tout avalé. Mais on se croit obligé de complimenter, je ne sais pas pourquoi, pour s'attirer des faveurs, peut-être. Et nous, messieurs, que de fois nous nous sommes sentis obligés de complimenter pour un plat qui en réalité est passé de travers, littéralement. Il était bon votre repas. Madame, je vous en remercie, alors que nous n'avons pas du tout apprécié. Nous en serions vraiment passés, et avec joie. Il nous faut être vrai. Je ne suis pas contre la politesse, bien sûr. On a toujours du plaisir à avoir contact avec un monde éduqué, bien éduqué. Mais il faut être vrai jusque dans la politesse. Et pourquoi ne pas se taire plutôt que de complimenter pour quelque chose qu'on n'a pas apprécié? Jusque dans la prière, notre langue peut être fausse. Jusque dans la prière. C'est Spurgeon qui disait un jour, il existe deux sortes de sermons. Ce qu'on dit, ces sermons qu'on dit les yeux ouverts, et ce qu'on dit les yeux fermés. Il est certaines choses que nous avons de la peine à dire à quelqu'un ou à quelqu'une, et nous profitons, nous saisissons la prière pour le lui dire. Ça ne vous est jamais arrivé, cela? Tiens, il est à côté, maintenant il va m'entendre. Alors, nous nous mettons à prier, mais cette prière n'est pas du tout pour Dieu. Elle est pour celui d'à côté, afin qu'il l'entende, qu'il puisse la recevoir réellement comme une gifle peut-être. Une humiliation. Jusque-là, il peut se faire que nos langues trompent, nos langues agissent mal. La Bible dit que nous sommes enregistrés. Où que nous soyons, dans ce que nous disons, nous sommes enregistrés. Vous pensez bien que nous qui avons été capables de créer le magnétophone, le mini-cassette, qu'on appelle souvent mini casse-tête à cause du bruit et qu'il peut parfois procurer. Si nous avons été capables d'inventer ce genre de choses, vous pensez bien que Dieu, lui, a ses bandes magnétiques célestes et qu'il nous enregistre dans tout ce que nous disons quotidiennement. Oui, nous sommes enregistrés. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 12 et au verset 36, nous pouvons lire: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Et Jésus dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Oui, chaque parole dite, en cachette ou au grand jour, un jour nous l'entendrons dans la lumière. Ce sera notre joie ou alors notre honte. À moins que nous mettions en règle ces choses avec le Christ. La Bible dit que le sang du Christ efface nos paroles mauvaises des bandes magnétiques célestes. Oui, le sang de Christ efface nos paroles, nos médisances, il efface notre jugement, notre critique, il efface notre péché. Quelle chance pour nous, aujourd'hui, d'avoir le sang de Christ auquel en appeler pour être purifié de toute parole mauvaise. Oui, ces bandes magnétiques célestes ce soir pourraient être vierges. Comme si rien n'avait jamais été enregistré sur elles. Le sang de Christ peut donc tout effacer. Nous sommes enregistrés. Il paraît que l'homme qui introduisit la réforme en Angleterre il y a plusieurs années fut traduit devant un tribunal pour hérésie. Et tandis qu'il prononçait sa défense, il entendit très distinctement le grattement d'une plume quelque part autour de lui. Il essaya de la situer, cette plume, mais rien à faire. Il fut persuadé d'être enregistré dans tout ce qu'il disait, dans tout ce qu'il affirmait. Ceci, bien sûr, le porta à davantage de vigilance pour que toutes ses paroles fussent à la gloire de Dieu. Eh bien, mes amis, pensons à cette plume divine qui note chacune de nos paroles dans la gloire. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Mais ceci nous fait trembler, mes amis, et vous avez envie de me dire, je le devine, mais votre Dieu n'est pas marrant du tout. Il est peut-être même gênant, difficile à supporter. Il vous faut savoir que si Dieu nous enregistre, c'est parce que nous aurons des comptes à rendre au sujet de cette langue qu'il nous a donnée, de cette faculté de parler. Dieu nous a donné la parole, le don de la parole, pour que nous en usions à sa gloire. Il nous a donné la possibilité de parler pour le glorifier, pour nous faire du bien, les uns, les autres, et non pas pour nous faire du mal. Or, aujourd'hui, la langue est employée la plupart du temps à cet effet. Quelle puissance que la langue de nos jours! Quelle force! La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et j'aimerais terminer en parlant de l'usage béni de la parole. Nous ne voulons pas rester sur quelque chose de négatif. Oui, de l'usage béni de la parole. Dieu nous a donné cette possibilité de lui dire nos fautes, les lui confesser de nos lèvres. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 1,9, si tu confesses de ta bouche, pardon, il a dit en 1 Jean 1,9, quiconque confesse son péché en est pardonné et en est purifié. Nous avons donc cette possibilité ce soir de confesser nos péchés au Christ, de lui dire ce qui est en nous, par nos lèvres, par notre langue, par notre bouche. C'est comme cela qu'on commence le dialogue avec Dieu. C'est de cette façon-là qu'on le retrouve, en lui confessant nos péchés, parce que ce sont nos péchés qui font écran entre lui et nous. Ce sont nos péchés qui l'ont crucifié. C'est à cause d'eux qu'il est mort sur la croix, le Christ. Oui, il nous faut commencer par lui confesser nos péchés, par notre langue, par nos lèvres, par notre bouche. Et puis ensuite, Dieu nous a donné une langue pour que, autour de nous, nous puissions parler de lui. Jésus dit en Matthieu chapitre 10, verset 33, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. » Une langue pour confesser le Christ devant les hommes. Il se fait souvent que nous ayons, oui, des paroles pour toutes sortes de choses, sauf pour rendre témoignage au Christ. Oh, je peux vous dire que pour ce qui me concerne en tout cas, mes plus grandes joies, je les connais dans ces moments où je peux parler du Christ autour de moi. J'en suis comme rafraîchi, mais renouvelé. Savez-vous que le témoignage est une source de renouvellement spirituel considérable? Et c'est parce que des chrétiens, souvent, ne rendent pas témoignage de leur bouche, ne confessent pas le Christ autour d'eux, qu'ils éprouvent une certaine sécheresse spirituelle intérieure. Mais oui, le témoignage est une source de bénédiction, de rafraîchissement extraordinaire. Et je puis dire aussi que lorsque nous nous intéressons à ceux qui sont autour de nous pour leur rendre notre témoignage et pour vivre notre témoignage aussi au milieu d'eux, eh bien, nous en oublions nos problèmes, nos crises, nos luttes, nos difficultés. Mais oui, nous les oublions. Ils disparaissent. Ceci me fait penser à un certain Camille. Ce Camille qui un jour vint vers moi pour me dire, jeune homme qu'il était, « Tu me pardonneras, mais aujourd'hui je ne pourrai sortir avec vous pour rendre témoignage dans la rue. » Nous avions coutume de lancer un coup de filet sur la rue avant nos réunions hebdomadaires d'évangélisation à Paris Nation, quand j'y étais encore pasteur. Et pourquoi donc, ami? Eh bien, parce que j'ai plein de problèmes. Aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai eu une très mauvaise journée. Alors, s'il te plaît, ce sera pour une autre fois. Mais comme tu voudras. Je resterai quand même à la réunion, si tu permets. Ça me fera peut-être du bien. Mais bien sûr, reste donc, reste avec nous. Et tandis que je m'apprêtais à sortir pour rejoindre le groupe de jeunes, Camille vint vers moi pour me dire... Mais dans le fond, je vais rester là, à tourner en rond, à ne rien faire. Je vais avec vous sur l'avenue, mais je n'inviterai pas. Je ne donnerai aucun tract. Comme tu voudras, tu peux venir, bien sûr. Et voilà Camille avec nous sur la rue, mais sans distribuer de traité, alors que d'habitude, pour ce genre de choses, il était le premier. À un certain moment, il vint vers moi pour me dire, écoute, dans le fond... Je suis maintenant sur la rue. Allez, passe-moi un paquet de tracts. Je lui ai donc remis un paquet de tracts. Et le voilà, distribué autour de lui, quand quelqu'un s'arrêta pour lui dire « C'est quoi ça? Vous parlez de quoi dans ce lieu ?»« Eh bien, monsieur, lui dit Camille, nous annonçons l'Évangile. C'est à cette adresse, vous y êtes cordialement invité. » Oui, mais il s'agit de qui, de quoi? À quel bord religieux appartenez-vous, etc. De fil en aiguille, Camille dut lui rendre son témoignage. Et Camille avait un témoignage. Nous l'avions trouvé dans un café, celui-là. Il était garçon de café. Il était venu vers nous pour nous servir à boire et nous l'avions évangélisé. Il s'était converti et il avait fait partie de notre église. Et voilà Camille donc parti à rendre son témoignage à cette personne. La réunion a eu lieu, et après la réunion, je suis allé vers lui pour lui dire, Camille, je suis à toi maintenant, toute la nuit, s'il le fallait, pour t'entendre sur tes problèmes, tes questions, tes crises. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction d'entendre Camille me dire, écoute, je n'ai plus de problème. Non, mais je n'en ai plus. Comment tu n'en as plus? Tout à l'heure, tu étais bourré de problèmes, écrasé, tu ne voulais pas sortir avec nous. « Mais non, je n'en ai plus. »« Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. » »« Eh bien, j'ai rendu mon témoignage sur la rue. J'ai invité telle personne. »« Et ceci m'a fait un bien fou. »« Ceci m'a renouvelé. »« Non, je n'ai plus de problème. Je crois que je les ai laissés sur l'avenue. Allez, bonsoir, m'a-t-il dit. Et il est rentré chez lui, mais complètement changé. Oh, bien sûr que ses problèmes ne l'avaient pas quitté, mais disons que ses problèmes n'avaient plus, après le témoignage qu'il avait rendu, l'acuité qu'ils avaient avant, auparavant. Ah, si nous nous mettions à parler du Christ autour de nous. N'est-il pas vrai que souvent que nous n'avons... Oh oui, nous savons parler pour bien des choses, mais pour ce qui concerne alors le témoignage du Christ, nous sommes un peu comme Joseph d'Arimathée, Nicodème, hein? Muets, disciples en secret, en silence, pour toutes sortes de choses. Une langue pour confesser Christ au monde. Quelle bénédiction! C'est le plus beau nom qui se puisse trouver sur une langue, sur une bouche humaine. Et puis encore une langue. Une langue exercée comme celle d'Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. Une langue exercée pour relever l'esprit abattu. Une langue pour encourager, pour fortifier. Une langue pour consoler. Une langue pour exhorter. Une langue pour bénir, autant de façons de glorifier le Christ par sa langue. Oui, une langue pour Christ. Et la Bible dit en Proverbe 12, 6, « La bouche des hommes droits est une délivrance. » La bouche des hommes droits est une délivrance. Des paroles agréables, Proverbe 16, 24, « Des paroles agréables sont un rayon de miel pour l'âme. » Savez-vous qu'il existe dans notre génération des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui attendent une parole de nous. Une parole agréable parce qu'ils n'en entendent pas. Ça ne court pas les rues, ces paroles-là. Ils attendent des paroles de paix, de consolation, des paroles douces. L'homme aujourd'hui parle brutalement, difficilement, parce qu'il est dur de cœur. Ah, si nous pouvions réellement user de notre langue dans ce sens. Une réponse douce, dit la Bible, calme la fureur. Ah, ceci me fait penser à un événement qui s'est passé à Bolène. Je ne sais pas si vous situez Bolène, dans le Vaucluse, près d'Orange. Tandis que je m'y trouvais pour l'Évangile. Et une personne qui avait assisté à la réunion la veille était venu sonner chez le pasteur, chez lequel je demeurais, pour me rencontrer parce qu'il voulait absolument me casser la figure. Il n'avait pas été d'accord avec ce que j'avais dit à la réunion. Il a donc sonné. Le pasteur est allé ouvrir. Et il s'est trouvé en présence, mais d'un homme, dans une colère épouvantable. Oui, M. Choisier, je veux absolument lui casser la figure. Je n'accepte pas ce qu'il a dit hier soir. Nous ne sommes pas de ces hommes pécheurs, perdus, etc. Le pasteur, à la porte, un peu troublé, s'est demandé ce qu'il devait faire. Et personnellement, j'ai pu entendre ce qui se passait. Oui, M. Choisier, je veux absolument le rencontrer. Et je me suis présenté à cet homme. Je suis allé à la porte pour lui dire, monsieur, je suis à vous. J'étais justement en train de prendre mon petit déjeuner. Avez-vous pris un café? Non, pas encore. Eh bien, c'est le moment. Entrez, puis prenez-le avec moi. Ah oui, oui, dans le fond, ce serait le moyen de vous dire ce que je pense. Mais entrez donc, monsieur. Il est entré, il s'est assis, je me suis assis en face, nous lui avons servi un café. Puis tout à coup, cet homme de dire, dans le fond, oublions, ça n'est pas si grave que ça. Oublions, vous êtes des gens sympathiques, je ne m'attendais pas à ce que vous m'offriez un café, là. Hein, moi, je voulais vous rencontrer pour vous dire vraiment ce que... Eh bien, monsieur, nous sommes des pécheurs comme vous. Hein, nous sommes tous pécheurs, dit la Bible. Hein? Alors, à quoi sert de s'énerver? Il faut simplement faire la paix avec Dieu, par le Christ. Et cet homme s'est calmé, sa colère est tombée. Une parole douce calme la fureur. Et nous avons besoin d'en entendre aujourd'hui de ces paroles douces. Colossiens 4, 6 nous invite à avoir des paroles toujours accompagnées de grâce. de sel. Et pour finir, langue pour raconter ses merveilles. Au psaume 45, verset 1, il est dit « Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » En d'autres termes, le Saint-Esprit voudrait se saisir de nos langues comme de plumes pour exalter le Seigneur, pour décrire ses perfections, pour l'exalter. Nos langues sont-elles dans la main du Saint-Esprit pour une louange à Dieu? Une langue pour chanter aussi. Psaume 51, verset 17, psaume 40, verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Autant d'usages de notre langue qui glorifie le Seigneur, le loue, l'exalte, réjouisse son cœur. Alors, je vous pose la question, qu'en est-il de nos langues ce soir? Des instruments de malédiction ou de bénédiction? Sont-elles là pour faire du bien ou pour faire le mal? Nos langues sont-elles dans la main de Dieu pour proclamer le beau message de l'Évangile, le témoignage du Christ, ou bien pour médire, pour calomnier, pour critiquer, pour juger? Où en sommes-nous? Ce soir, nous pourrions alors avoir de ces langues qui glorifient le Christ, qui l'honorent et qui le réjouissent. Nous pourrions ce soir lui dire, Seigneur, pardon pour ma langue qui a fait tant de mal, pour ma langue qui t'a crucifié, qui t'a mis en croix. Seigneur, pardon, donne-moi à partir de ce soir une autre langue afin que je puisse réellement annoncer autour de moi tes vertus, faire du bien à ceux qui souffrent. Ô Seigneur, viens-moi en aide et sauve-moi. Ainsi, nous pourrions lui parler. Peut-être y a-t-il ici, dans ce lieu ce soir, quelqu'un précisément que ce péché accable, il pourrait le confesser au Christ et lui dire, Seigneur, que ma langue, à partir de ce soir, soit purifiée, que mon cœur le soit, que ma conscience, mon esprit le soit également. Seigneur, sauve-moi. J'aimerais inviter ceux qui, précisément, éprouvent en ce moment ce poids de leur péché à cause de leur langue. Je voudrais les inviter à le dire au Christ, à confesser de leur bouche le mal qu'ils ont fait, silencieusement, au Christ, dans leur cœur, pour que Christ les sauve, les rencontre, les change. Et j'appelle aussi les chrétiens, ceux qui pourraient être sous ce même poids de culpabilité. Parce que dans l'Église, ils ont peut-être dit quelque chose qui a blessé, meurtri, déchiré, divisé. Ils pourraient aussi, cela, confesser leurs péchés et demander au Christ une nouvelle langue pour sa gloire. Dieu vous aide, vous bénisse. En tout cas, prenez courage si vous étiez vraiment sous le poids de votre péché. Le Christ est là, il veut maintenant vous délivrer, vous sauver, faire de vous quelqu'un de neuf, de différent, par sa puissance. Il est mort pour vous. Et son esprit est là pour vous ce soir, pour vous habiter et vous aider à changer de vie, à entrer dans une vie nouvelle. Priez donc que Dieu vous aide. Amen.